Aujourd'hui, elle se porte très bien. Depuis l'an 2000, disons, elle est très soutenue ou boostée, comme on pourrait dire avec un anglicisme, par Internet, parce que ça nous permet des échanges à travers le monde qui sont beaucoup plus rapides que c'était quand il y avait des lettres et des belles collections de timbres. Ensuite, on a, depuis 4 ans, un cours sur Internet, c'est-à-dire une application pour téléphone qui s'appelle Duolingo, qui est sorti sur la base de l'anglais. Et là, on a 2000 débutants par jour. Ensuite, Duolingo a édité le cours d'espéranto sur la base de l'espagnol. Et on a aussi 2000 débutants par jour. Et cette année, en été, il est sorti le cours sur le portugais. Et là, on a aussi, avec tout le Brésil, on a aussi 2000 débutants par jour. Donc, on voit vraiment maintenant une explosion. Sur Duolingo, on n'a pas encore le français, mais on peut utiliser 3xw.lernu.net, L-E-R-N-U, et puis là, on a un cours d'espéranto gratuit sur téléphone en français.
Alors justement,
On a aussi une chose qui est très remarquable, c'est Wikipédia. On a une version de Wikipédia en espéranto, et récemment, il y a un mois, on a passé les 250 000 articles. Vous avez dans Wikipédia toutes les localités de Suisse. Ça veut dire, en espéranto, vous avez bien Tavannes, Tramelan, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds-les-Brenets, y compris Zurich, Saint-Gall, Coire, tout y est.
Et au niveau mondial, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui combien de pratiquants il y a de l'espéranto ?
Alors, quand j'entends pratiquant, ça me fait penser à une religion, puis c'est pas une religion.
On donne quel nom alors ? Alors, de personnes qui pratiquent ou qui connaissent l'espéranto.
Les gens qui parlent, c'est des locuteurs.
Des locuteurs, très bien.
Des locuteurs, oui, on est espérantophone, comme vous et moi, on est francophone, on est espérantophone et on est des locuteurs de cette langue. Ça, c'est un terme un peu plus neutre. Alors, écoutez, c'est difficile à dire parce que on peut compter les gens qui ont un passeport suisse parce qu'on l'a ou on l'a pas. Mais si j'enseigne 20 minutes l'espéranto à quelqu'un, est-ce qu'on va l'appeler espérantophone? Il faudrait définir à partir de quel niveau et puis il faudrait faire passer des examens. Je sais pas, moi, j'utilise l'anglais parce que j'ai travaillé à l'ONU et tout, mais je sais pas si on peut dire que je suis anglophone. Vous voyez, il y a une question de niveau qu'il faudrait fixer. Donc, c'est difficile d'évaluer le nombre de gens qui auront un niveau lequel en espéranto. Non, il y a différents chiffres qui circulent de 2, 3, 4, 5 millions dans le monde. C'est ce qui circule comme évaluation. On ne peut pas prouver vraiment.
Alors, vous, comment il est arrivé chez vous, l'espéranto, dans votre vie ?
Alors, dans ma vie, il est arrivé une activité physique qui était l'aïkido, où je me suis beaucoup entraînée et tout. J'avais 35 ans, j'avais des enfants. Et puis, on était totalement fous du Japon, parce qu'on avait un excellent maître japonais ici en Suisse. Et puis, on est allé au Japon, toute la famille, avec mes filles qui avaient 7 et 9 ans, en 85. Et puis, au Japon, ben, on nous a dit, bon, tout le monde parlait anglais, pas de problème. Eh ben non, on pouvait pas avoir des contacts avec les Japonais. Ils nous disaient 3 phrases en anglais, c'était les 3 premières du cours. Puis après, ben on avait des tas de questions sur ce qu'on voyait, etc. Et puis on n'a pas pu communiquer. Alors on est rentré du Japon, on a repris notre enseignement à l'école secondaire du Locle, mon mari et moi. Puis là, il y avait une exposition sur l'espéranto où il y avait une carte du Japon avec 70 petits points rouges. Ça, ce sont les villes où il y a un ou plusieurs locuteurs de l'espéranto. Puis là, on s'est dit, ben voilà, si on veut retourner au Japon et questionner les Japonais, on apprend cette langue qui va nous ouvrir les portes non seulement du Japon, mais de 130 pays dans le monde.
Et pour vous et votre société, qu'est-ce que ça représente, la Journée internationale de l'espéranto ?
Alors, il y a beaucoup de réunions, d'autant plus que ça tombe sur un samedi. Il y a énormément de réunions dans tous les clubs locaux dans le monde. On se réunit et on se réunit de toute manière régulièrement pour pratiquer la langue, pour lire ensemble, pour améliorer l'oral. Parce que par écrit, on peut lire, on a la radio, on a plusieurs podcasts en espéranto sur Internet. On peut écouter toute la journée. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des échanges avec les gens. Donc, il y a des réunions, il y en a à la Chaux-de-Fonds, à la bibliothèque de la ville, il y a des cours tous les troisièmes samedis du mois, il y a des réunions à Bienne, il y a des réunions à Berne, à Zurich, à Lausanne, à Genève. Mais le 15 décembre, en général, on fait quelque chose d'un peu plus conséquent comme réunion. Il y a des fois des espérantistes d'autres régions qui sont en visite. Ça fait des conférences, des repas, des petites agapes. C'est beaucoup plus convivial encore.
Est-ce qu'on peut parler des espérantophones comme d'une grande famille ?
Oui, ça c'est sûr. Quand on apprend l'espéranto, puis qu'on commence à avoir des contacts au niveau mondial, comme c'est mon cas, mais c'est le cas pour n'importe quel locuteur de l'espéranto, on entre dans l'idée qu'on est une grande famille humaine, parce qu'on est en prise directe avec les gens des autres pays. Quand j'étais au Japon, j'étais dans les familles. Si vous allez au Japon pour des voyages d'affaires, on va vous payer l'hôtel, on va vous accueillir au restaurant. Mais tout le monde dit on peut pas entrer dans les familles japonaises. Moi, j'étais en 2008, quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait 6 mois au Japon, j'ai habité dans 22 familles. Et en 2012, je suis retournée pour une tournée de 3 mois, et là, j'étais dans 30 familles. Donc, je vois les Japonais chez eux, je vois leurs chats, je les vois en pyjama, etc. On est avec eux dans les familles. Et ça, c'est très, très rare au Japon. Mais j'étais avec des congrès d'espéranto au Brésil. J'étais dans 5 pays d'Afrique. J'habite 2 mois par année au Bénin, parle espéranto, et dans 30 pays d'Europe. Et on est toujours en contact avec les gens chez eux. J'ai aussi fait une tournée de conférences en France. J'en ai fait une en Bretagne, où j'ai aussi pu découvrir le pays, les gens, en étant en contact direct. Donc, ça donne une impression vraiment fraternelle.